Vous écoutez
RMC.
RMC.
Avec la frappe à l'instant même et l'égalisation. L'égalisation du Canada avec cette frappe à bout portant qui vient permettre au Canada de revenir dans cette rencontre. Le but pour la Suisse. Quel but exceptionnel, Manzambi.
After Live, intégrale Coupe du Monde.
Karim Galli.
Bonsoir à tous, magnifique introduction. Vous vivez l'After Live intégrale Coupe du Monde. Vous le savez, on est en direct de New York. On vit une Coupe du Monde 2026 passionnante aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et on est aujourd'hui aux côtés de Florent Gautreau et Maxime Chanot. Bonsoir messieurs.
Salut Karine, salut Max, salut à tous.
Salut à tous.
Ça donne les frissons quand on réentend ces buts commentés par nos talentueux reporters et commentateurs d'RMC, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai que la Suisse en plus, enfin les deux d'ailleurs ont quelque part des choses à nous remontrer parce qu'on est resté un peu sur notre faim. Je parle notamment de la Suisse. Donc oui, mais ça donne des frissons parce qu'il y a du potentiel offensif, donc on a envie de voir ça.
J'allais dire la même chose du Canada, tu vois, qui m'ont quand même bien plu, mais c'est vrai que je les ai trouvés un peu brouillons. Alors j'attends de voir une réaction de leur part, d'autant que je connais pas mal de joueurs, il y en a beaucoup qui évoluent en MLS. Une division et une ligue que j'ai joué pendant plus de 12 ans. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça va donner. Mais au même titre que les États-Unis, je suis quand même malgré tout agréablement surpris, moi, par cette équipe nord-américaine.
Mesdames et messieurs, on va passer 3 heures ensemble. Oui.
On entendait Manzambi, là, dans le commentaire de, je crois que c'était Flo Germain. Manzambi, buteur et très très bon joueur. Donc j'attends aussi de voir les compos parce qu'il a été très très performant.
Et ben vous allez tout savoir évidemment parce que c'est la troisième journée du groupe B, donc les troisièmes matchs qui commencent aujourd'hui avec un groupe qui est extrêmement indécis. Hein. On rappelle, entre la Suisse, le Canada, le Qatar et la Bosnie, on parlera évidemment de l'équipe de France avec l'avis de Florent Gautreau, notamment concernant les latéraux. Neymar, tout le monde l'attend, il devrait jouer ses premières minutes avec la Seleção depuis octobre 2023. Imaginez la pression qu'il a, imaginez la folie également au Brésil. Tout le monde l'attend pour ce troisième match. Alors que le Brésil pour l'instant ne nous a vraiment pas emballé dans le jeu. Il y aura donc ce match très important entre le Brésil et l'Écosse. Et puis on parlera également du Maroc. Ce Maroc 2026, est-ce qu'il vous impressionne plus que le Maroc 2022? Le Maroc qui va jouer également son troisième match aujourd'hui. Ça sera à Atlanta face à Haïti. Mais on va commencer donc avec le groupe B, un groupe extrêmement indécis, je vous l'ai dit. Il y a deux équipes qui comptent 4 points, deux équipes qui comptent 1 point. Donc tout le monde peut encore effectivement se qualifier. On va commencer avec ce Suisse-Canada, messieurs. Les deux équipes comptent 4 points. Il y a une meilleure différence de but, évidemment, pour les Canadiens. Du côté du Canada, un but partout face à la Bosnie, alors que le Canada avait été dominateur, mais ils avaient longtemps buté face aux Bosniens. Et ce 6-0 du Canada face au Qatar, avec notamment un triplé de Jonathan David. Et du côté de la Suisse, 4 points également. Ça avait commencé par un match nul, un but partout face au Qatar. Puis il y a eu un succès beaucoup plus large, 4 buts à 1 face à la Bosnie. Pour nous faire vivre ce match, on retrouve Clément Brossard. Salut Clément.
Salut Flo, salut Max. Bonjour.
Salut Clément.
Clément, on l'a dit, ce groupe est extrêmement indécis. On a hâte de voir peut-être les deux meilleures équipes de ce groupe s'affronter aujourd'hui. La Suisse face au Canada. Canada, l'un des pays co-organisateurs de ce mondial. Dis-nous tout sur les choix des deux sélectionneurs.
C'est assez intéressant, Karine, parce que Murat Yakin, pour commencer par la Nati, est repassé à 3 attaquants. C'était le cas face au Qatar, où ils avaient eu énormément de mal à trouver la solution. Et ils étaient repassés à 2, les Suisses, lors du dernier match face à la Bosnie, ce qui leur avait plutôt bien réussi puisqu'ils avaient inscrit pour la première fois dans leur histoire en Coupe du Monde 4 buts. Eh bien, c'est une décision de Murat Yakin donc de repasser avec un trio offensif. On va commencer d'abord par la cage. Gregor Kobel, ça, y a pas de surprise, avec une défense à 4, Ricardo Rodriguez dans le couloir gauche, Lucas Jaquez qui fait partie de ces 4 changements par rapport à la Bosnie qui remplace Widmer sur la droite, une charnière composée de Manuel Akanji et de Nico Elvedi. Au milieu de terrain, le capitaine omniprésent Granit Xhaka sera bien présent, bien sûr, à côté de Remo Freuler, devant Djibril Sow en organisateur un petit peu plus offensif. Et donc la triplette d'attaque, Ruben Vargas sur la gauche, Brelem Bolo, l'attaquant rennais, dans l'axe, et celui que Flo attendait, Johan Mozambi, est titulaire récompensé de sa très belle prestation face à la Bosnie, titulaire sur le côté droit. Pour les Canadiens, le milieu axial change. On a enlevé la paire Eustachio Kone, on pense d'ailleurs à Ismaël Kone, fracture tibia péroné, blessé de longue durée, donc et un petit petit mot aussi pour dire que le Qatari Assim Madibo, qui avait provoqué cette blessure, lui a rendu visite à l'hôpital. Ça fait partie de ces petits gestes sympas de la Coupe du Monde. Maxime Crepeau sera dans la cage pour les Canadiens, défense à 4, Johnston sur la droite et l'arrière sur le côté gauche. Dans l'axe, on retrouvera De Fougerolles aux côtés du Marseillais Derek Cornelius. Au milieu de terrain, donc, changement de charnière, si on peut l'appeler ainsi, avec Mathieu Chouanière de Los Angeles, que Maxime connaît bien, certainement, avec Nathan Saliba. Sur la gauche, Ali Ahmed. Sur la droite, le très dynamique Buchanan. Et devant, Kyle Larine, l'attaquant de Southampton, aux côtés, évidemment, de l'homme au triplé, lors du dernier match des Canadiens, le capitaine Jonathan David.
Merci beaucoup, Clément. Messieurs, on en reparlera de la Suisse, notamment avec François Moubanger, ancien international suisse, qui sera notre invité, puis Paulo Breitner, qui connaît la Nati par cœur. Est-ce que vous avez l'impression que ce match est équilibré? On a vu un Canada qui a réagi avec Jonathan David, alors que lors du premier match, il avait été en difficulté. Est-ce que vous voyez un favori ou pas du tout?
Écoute, c'est équilibré, oui, déjà, pour répondre à ta question. Ça, c'est sûr que c'est un match, enfin, a priori, équilibré. Ce qui est intéressant, c'est de voir le, j'irais presque les tâtonnements de Muraki Akin. On peut considérer que ça fait partie du jeu et de l'évolution dans une Coupe du Monde. Mais là, on voit clairement un changement de système. Et au passage, Endoy, d'ailleurs, qui repart sur le banc. Donc ça, c'est intéressant de voir si cette formation-là, avec cette tactique-là, va être plus performante et notamment avec Manzambi devant, ce qui, normalement, Fred la Suisse quelque part hein, une équipe supérieure, mais oui équilibré parce que les Canadiens ont été assez performants. Évidemment ils ont bénéficié d'un match à 11 contre 9 dans un scénario un peu particulier contre le Qatar, mais oui à la base je dirais match équilibré et surtout c'est important la première place et la Suisse doit gagner pour des raisons de goal average, alors qu'un nul peut suffire aux Canadiens pour rester premier.
Quand tu regardes un petit peu les individualités dans les deux équipes, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est un match qui va être équilibré. Moi, je te l'avais dit, mais j'ai beaucoup aimé ces Canadiens. Ils sont arrivés avec évidemment énormément d'interrogations par rapport à l'attente qu'il y a auprès de cette équipe, notamment parce que c'est le pays organisateur. Je me répète encore, mais c'est vrai que je connais beaucoup de joueurs, dont Mathieu Chouanière, avec qui j'ai joué à Los Angeles FC, ou alors Maxime Crepeau aussi, le gardien de but, l'ancien de Los Angeles FC aussi. J'étais un peu étonné justement de voir Eustachio sur le banc, avec qui j'ai joué aussi, à l'ancien de Porto, qui est aussi maintenant en MLS. Voilà, moi ce qui m'impressionne dans cette équipe du Canada, c'est la profondeur de banc. Il faut pas oublier que derrière Kyle Larine et Jonathan David, ben justement t'as l'homonyme de Jonathan David, c'est-à-dire avec Promesse David, le joueur de l'Union Saint-Gilloise, t'as encore Tyrone Buchanan, le joueur de l'Villarreal. Donc c'est vrai que quand tu compares un petit peu cette équipe canadienne il y a quelques années à maintenant, tu te rends compte qu'individuellement ils jouent chacun dans des grands clubs européens, et c'est vrai que ils l'ont démontré contre le Qatar dans un scénario de match, comme tu l'as dit Flo, un petit peu particulier parce qu'il y a ces deux cartons rouges, mais on sait aussi que la Suisse n'est pas arrivé justement à battre ces Qataris. Donc voilà, j'attends de voir un match à mon avis passionnant, mais je pense qu'on risque de voir un match avec deux équipes qui ont plus ou moins, en tout cas c'est mon avis, un niveau égal. Après, attends de voir ce que ça va donner. Il y a la première place du groupe qui est en jeu, tu l'as dit Flo, et je pense que c'est très très important pour les deux nations.
On vit la première journée avec les troisièmes matchs de groupe. On rappelle donc que les deux matchs sont en même temps pour qu'il y ait évidemment une équité totale et pour que les équipes ne soient pas forcément impactées ou informées des résultats des adversaires. Qatar-Bosnie, c'est l'autre match qui aura lieu donc en même temps. Deux équipes qui n'ont pas gagné dans cette compétition pour l'instant. Deux équipes qui comptent un point, et on va retrouver Arnaud Valadon au commentaire. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Bienvenue à Seattle. C'est pas trop loin de Vancouver et Clément Brossard.
Ah, c'est beau Seattle, c'est absolument magnifique. Alors dis-nous tout. Alors on va pas détailler toutes les compositions d'équipe, mais est-ce que les joueurs principaux sont bien présents pour ce match, où on rappelle, il y a de l'enjeu hein. Tout le monde peut encore continuer la compétition et voir les 16e de finale.
Ah bah il y a un enjeu historique, et Lopetegui, le sélectionneur du Qatar, l'a dit, Barbarez, le sélectionneur de la Bosnie aussi. Il y a une qualification en jeu, parce que très probablement avec 4 points, s'il y a un vainqueur, parce que là, pour le coup, s'il y a match nul, ça serait quasiment élimination pour les deux équipes. Il y a de l'enjeu. Écoute, pour la Bosnie, l'un des gros points, c'est la suspension de Muamerovic, le joueur de Sassuolo, un des joueurs les plus en vue, le défenseur central. Donc, à côté de Katic, ce sera Radeljic. Kolasinac est titulaire à gauche. En revanche, pas de Amar Dedic, le joueur de Benfica, qui est sur le banc. L'attaque d'Emirovic, l'attaquant de Stuttgart, avec... lui aussi il a 40 ans, il n'y a pas que CR7 et Cristiano, c'est Edin Dzeko qui est titulaire pour l'attaque bosnienne.
C'est son jour Arnaud.
Écoute, on espère.
Pour moi c'est son jour. C'est son jour parce que le Qatar qui a pris cher quand même, à la fois mentalement et physiquement sur le match contre le Canada, Tu vas le dire sans doute avec les suspendus. Là, pour le coup, c'est un match pour lui. C'est le fameux match, c'est dans cette Coupe du Monde un peu EHPAD, un peu pop-corn. tu peux à 40 ans. Tu vois, je regrette même que Max n'ait pas une nationalité qui lui permette de participer à la Coupe du Monde, Max Chano, parce qu'à 36 ans, c'est un genou dans cette Coupe du Monde.
J'avais juste la mauvaise nationalité. été Qatari, peut-être que je l'aurais fait, qui sait.
Donc tu mises sur un but de Dzeko.
Enfin, en tout cas, oui, puisque dans cette Coupe du Monde, les buteurs et les stars, on va dire, de chaque équipe peuvent se révéler et s'affirmer, je le pense d'autant plus qu'il y a des matchs un peu pop-corn, c'est-à-dire un petit peu déséquilibrés, et qui permettent cela, et qui permettent même à des footballeurs un petit peu, parfois en souffrance physique ou un petit peu en âge avancé, de briller.
Messieurs, je vous coupe parce qu'une image très émouvante, c'est Clément qui va nous la raconter, et évidemment parce qu'il y a un match entre la Suisse et le Canada, et on voit un joueur qui a été gravement blessé, et qui est présent quand même au stade en fauteuil roulant, mais il est là, et ça aussi, c'est une des images de ce mondial. On rappelle que ça a été face au Qatar pour le pauvre Koné.
Ismaël Koné, en effet, c'est la très sale image de ce début de compétition de cette Coupe du Monde, avec une faute qui paraissait assez anodine, d'Assim Madibo, pourtant le Qatari, et l'image de sa jambe totalement tordue a glacé le sang de millions de téléspectateurs, et il est bien présent en effet. Il y a pas mal d'hommages dans les tribunes aussi, avec des supporters des Canucks qui ont un petit maillot floqué numéro 8 ou des petites pancartes numéro 8. On se rappelle aussi du but de Nathan Saliba sur coup franc lors de la deuxième journée. Il l'avait dédié justement à son copain qui venait de sortir sur civière en brandissant son maillot. Donc grosse force de caractère d'Ismaël Koné, qui est venu soutenir les Canadiens, ses coéquipiers, pour une qualification qui serait évidemment historique pour les hommes de Jesse Marsh.
La perte de Koné, ça va vraiment impacter, collectivement parlant, cette équipe du Canada, parce qu'il était vraiment une pièce importante du dispositif de Jesse Marsh. Moi, je pense avant tout aussi à lui-même, individuellement parlant, parce qu'il a fait une très très grosse saison du côté de l'Italie, du côté de Sassuolo. C'est vrai que ça a un peu moins bien fonctionné du côté de l'Olympique de Marseille, mais là, il s'était bien rattrapé. Je sais qu'il y avait énormément de gros clubs de Serie A italienne, qui étaient intéressés par son profil. Donc c'est vrai que cette blessure va forcément retarder un petit peu sa progression, en tout cas dans sa carrière, d'un point de vue individuel.
Ça devrait le stopper aux alentours de 5 mois, Maxime. Donc évidemment, tu es mieux placé que personne pour savoir ô combien c'est difficile de revenir après une telle blessure et de retrouver son niveau assez rapidement.
J'ai eu d'ailleurs cette blessure-là, je peux te dire que c'est très, très, très douloureux.
En tout cas, il est là à Vancouver, il est acclamé par le stade pour ce Suisse-Canada, Koné, qui est présent auprès de ses coéquipiers malgré sa très grave blessure. Mais si on rappelle donc que dans moins d'une heure, il y aura le début du Suisse-Canada et en même temps Qatar-Bosnie, on connaîtra les qualifiés dans ce groupe B.